France Inter, le 18-20.
Attention, un lundi de Pentecôte peut en cacher un autre. Une deuxième journée de solidarité est dans l'air. Le gouvernement y réfléchit, comme pour la première instaurée après la canicule. L'idée est de financer la dépendance et l'aide aux personnes âgées. Sauf que vous n'êtes pas chaud apparemment. Vous êtes même 2 sur 3 à trouver l'idée plutôt saugrenue. Peut-être au fond, est-ce parce que cette première journée qui demandait aux salariés de rendre leur lundi de Pentecôte en travaillant gratuitement est devenue assez vite une sorte d'usine à gaz, appliquée de façon finalement très inégale, expliquée peut-être un peu trop grossièrement. Au final, on ne travaille toujours pas le lundi de Pentecôte pour la plupart. Les entreprises peuvent choisir n'importe quel jour. Parfois, ça se traduit officiellement par quelques minutes de travail en moins chaque jour. Tout ça est assez bizarre parfois. Quoi qu'il en soit, techniquement, nous travaillons tous 7 heures de plus dans l'année sans être payés. Chaque entreprise donne 0,3% de sa masse salariale, ce qui rapporte un peu moins de 3 milliards, dont la répartition n'est pas toujours très claire et on y reviendra. Pour autant, nous sommes tous préoccupés par la dépendance qui nous tombera dessus au moment de la grande vieillesse. Nous sommes tous solidaires aussi. Là encore, ce sont les chiffres qui parlent, des personnels des EHPAD qui dénoncent leurs conditions de travail et aussi le traitement des plus vieux. Alors, quelle solution plus pérenne, plus claire? Est-ce qu'un jour de congé travaillé, c'est la bonne solution? Est-ce que tout cela pourrait être amené différemment? Ou une sorte d'assurance dépendance obligatoire? Tiens, pourquoi pas? Tout ça a été déjà mis sur le tapis. En tout cas, venez nous dire ce que vous préférez et soyez les bienvenus dans le Téléphone Sonne.
Fabienne Saintès, le Téléphone Sonne.
Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
C'est vous la première, Catherine. Soyez la bienvenue et on vous écoute.
Voilà, j'aurais aimé que vous rappeliez quelles catégories professionnelles sont soumises à cette obligation, parce que je crois qu'il ne s'agit pas de toutes les catégories. Et est-ce que les professions libérales, les indépendants participent? Qu'en sera-t-il pour cette deuxième journée?
Alors j'imagine que vous avez déjà la réponse, mais on va la donner dans un instant. Catherine, juste par curiosité, vous êtes dedans ou pas? Alors, en gros, est-ce que vous êtes salarié ou pas?
J'étais en activité lors de la première journée, lors de la création de la première journée, et je suis actuellement retraitée, mais je suis toujours contre. Je pense que la solidarité doit être, par exemple, la CSG ou financière en tout cas.
Merci beaucoup pour cette entrée en matière, Catherine, qui pose bien le débat pour en parler ensemble jusqu'à 20h et pour en discuter, en débattre. Pascal Chanvert est là, bonsoir.
Bonsoir.
Président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées, ADPA, ça veut dire que les EHPAD et aussi les services à domicile, c'est vous. Et bonsoir Luc Broussy, vous êtes président de l'Association France Silver Echo. Vous êtes notamment l'auteur d'un rapport interministériel en 2013 sur l'adaptation de la société au vieillissement. Pascal Chanvert, on va répondre très directement à la question de Catherine. Effectivement, pour l'heure, salariés, travailleurs indépendants, retraités, imposables, si je m'abuse.
Oui, c'est ça. Tout le monde, en tout cas, n'est pas concerné, ça c'est clair. Et c'est la raison pour laquelle, il faut le dire d'emblée, il n'est pas envisageable de supprimer un deuxième jour férié. En fait, l'ensemble des organisations syndicales sont contre. Vous l'avez dit, la majorité des Français y est opposée.
2 sur 3, hein, globalement.
Il faut faire mieux et plus pour accompagner les personnes âgées à l'autonomie, pas à la dépendance. Mmh. Il faut accompagner les personnes âgées à l'autonomie. Pour ça, il faut trouver le mode de financement qui soit le plus acceptable possible par l'ensemble ou par une large majorité de Français. On voit bien que celui-là ne l'est pas, donc il faut trouver d'autres moyens. Par ailleurs, là aussi, disons-le d'emblée, une journée de férié supprimée, ça apporte 1,5 milliard pour les personnes âgées, un peu plus, mais il y a aussi des moyens qui sont donnés pour l'aide aux personnes en situation de handicap. Il faudrait de l'ordre entre, alors on ne sait pas bien, 8, 10, 12, 15, 16 milliards, on va dire, de l'ordre de 10 milliards pour rattraper le retard de la France par rapport à ses voisins européens.
Alors que là, on l'a dit, c'est un peu moins de 3 milliards, en fait.
Il faudrait supprimer la cinquième semaine de congés payés. Donc, comme personne n'y songe et que ça n'est pas raisonnable, il faudra trouver d'autres moyens de financement.
Mais Luc Broussy, est-ce qu'on peut imaginer, ou est-ce que c'est même pas la peine de le mettre sur le tapis, que tout le monde participe, donc y compris commerçants, artisans, professions libérales, etc., que ce soit pas simplement, en gros, le gros des salariés? Ou est-ce que c'est totalement inenvisageable?
Mais c'est surtout, je crois que ce qui est inenvisageable, c'est une seconde journée de solidarité. Parce que c'est l'ensemble des Français qui doivent être solidaires. Est-ce qu'on se pose la question, pour l'assurance maladie, de savoir s'il y a une journée pour ceux qui ont des rhumatismes, la journée des cancéreux, la journée des indigents. Enfin, vous voyez, c'est vrai que, au fond, cette journée de solidarité a été prise dans l'émotion de l'après-canicule de 2003. Et donc, on n'a pas trop regardé, au fond. C'était un gouvernement qui voulait instaurer un prélèvement obligatoire sans prélèvement obligatoire. Donc, on a eu le prélèvement obligatoire contre la suppression d'un jour travaillé. Et on voit bien aujourd'hui que ce jour travaillé, il n'est plus travaillé par personne. D'ailleurs, officiellement, depuis 2008, le lundi de Pentecôte est redevenu
absolument jour férié. Et les entreprises peuvent choisir un jour. En tout cas, on rend 7 heures, peu importe finalement si c'est sur un jour, une RTT ou je ne sais quoi, on rend 7 heures de travail.
Donc, que ce scénario totalement bizarroïde ait été pris en 2004, un peu dans l'urgence, c'est une chose, qu'on le renouvelle, pas question. D'ailleurs, au fond, la bonne nouvelle de ces dernières semaines, c'est que le président de la République a souhaité rouvrir le débat du financement de la dépendance, et on va en parler. Mais parmi les voies qu'il a ouvertes, je pense qu'il y en a une qui est condamnée, c'est celle d'un second jour de solidarité.
Et comme on disait tout à l'heure, hein, 2 Français sur 3 apparemment qui sont plutôt contre. Bonsoir Véronique.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, on vous écoute, allez-y.
Merci. Je me demandais, comme la bourse travaille aujourd'hui et puis qu'elle a dû enregistrer des bénéfices, est-ce que cet argent ne pourrait pas être reversé à la solidarité ?
Merci, Véronique, pour votre remarque. Et on comprend la remarque de Véronique Pascal Chanvert, en fait. Voilà, quand on est salarié, qu'on gagne un salaire qui est un salaire pour être peut-être raisonnable, mais pas forcément des milliers de cents, on se dit bah pourquoi encore moins, quoi. En gros, c'est un peu ça le sens de la question de Véronique.
Oui, mais de toute façon, ce qui est clair, bien sûr, on peut envisager un certain nombre de financements possibles. Ce qui est clair, c'est que il faut mieux accompagner à l'autonomie les personnes âgées qu'elles vivent à leur domicile ou en établissement quand elles sont vulnérables. Ça, tout le monde en est d'accord et ça ne fait pas débat. Il faut que le financement soit le plus accepté possible parce que ce sont bien les Français qui vont payer. Ça, il n'y a pas d'histoire à raconter. C'est pas les Allemands, les Chinois ou les Martiens qui financeront l'aide à l'autonomie des Français et de ceux qui vivent en France. Donc, ça devra être les Français. Mais il faut que ce soit le plus accepté possible. Le président Macron a dit qu'il serait au rendez-vous, il l'a dit devant l'ensemble des Français. Nous attendons les propositions que lui et le gouvernement vont faire. Il faudra qu'elles soient le plus consensuelles possible. Le consensus absolu, ça n'existe jamais. Payer plus cher, c'est délicat et c'est compliqué pour tout le monde. Mais il faudra le faire parce que c'est une question de solidarité nationale. Sinon, ce qui se passe, c'est qu'on continue à laisser des personnes pendant quasiment des journées entières seules à domicile, sans accompagnement. Sinon, on laisse des personnes en établissement insuffisamment accompagnées. On fait que les salariés du secteur s'épuisent parce que, au risque de leur santé, c'est le secteur où il y a le plus grand taux d'accidents du travail et de maladies professionnelles. C'est ce que nous avons dénoncé avec l'ensemble des organisations syndicales en janvier et en mars. Sinon, on continue à faire aussi payer très cher les personnes âgées et leurs familles en établissement et de plus en plus à domicile. Il faut arrêter avec tout cela.
Alors justement, et la question de à quoi sert cet argent de toute façon et pourquoi les EHPAD sont si chers s'il y a cet argent, elle revient très régulièrement au 01 45 24 7000. Je voudrais qu'on écoute Valérie. Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
Allez-y Valérie, on vous écoute.
Merci de prendre mon appel. Donc moi, a priori, je suis contre cette seconde journée parce que effectivement, je me demande bien où va l'argent de la première journée puisqu'on voit les employés des EHPAD qui manifestent, les gens qui sont à domicile, qui soutiennent leurs parents ou leur, enfin peu importe, n'arrivent pas à trouver de, comment dire, avoir quelqu'un pour s'appuyer sur quelqu'un d'autre pour les soulager. Donc, je suis contre. J'ai l'impression que ça me fait penser à cette histoire de la vignette qui, paraît-il, avait été créée pour soutenir les personnes âgées. Bah là, ça recommence. C'est une usine à gaz. Et puis, je doute. Je serais curieuse de savoir combien elle rapporte par an cette journée et où va vraiment cet argent.
Eh ben, on va tâcher de répondre à ces questions pour vous, Valérie. Luc Broussy. Donc, on l'a dit, un peu moins de 3 milliards d'abord pour une année.
Non, beaucoup moins. C'est 2,4 milliards.
2,4.
Et 1,4 milliard pour les personnes âgées.
Alors justement, là concrètement, puisque c'est le sens de la question de Valérie, on a beaucoup vu les EHPAD cette année, on les verra probablement encore.
Et le domicile aussi.
Les EHPAD et l'aide à domicile, combien sur ces 2,4 milliards?
Alors, 1,4 milliard viennent alimenter le financement de la perte d'autonomie chaque année, ça c'est le résultat de la journée de solidarité. Donc moi je comprends bien la frustration de ceux qui doivent contribuer quand c'est 1,4 milliard sur 30 milliards. Aujourd'hui en France, les dépenses consacrées par l'assurance maladie, par les départements, par les familles,
par les personnes âgées.
Et par les personnes âgées elles-mêmes, le total de tout cela c'est 30 milliards, c'est le coût global de la prise en charge aujourd'hui de la dépendance, sachant que, comme ça a été dit, ce n'est pas suffisant. Alors, quand vous rapportez ce petit 1,4 milliard, c'est déjà beaucoup, Mais enfin, vous comprenez que du coup, ça a l'impression d'être une goutte d'eau dans l'océan.
Ce qui est le cas ou pas? Est-ce qu'on peut dire, oui, ça sert quand même et ça sert à ça? Est-ce qu'on peut dire de manière très précise, Pascal Chambert, voilà, sur ces 2,4 milliards l'année dernière, on en a affecté tant pour les EHPAD, tant pour l'aide à domicile, tant pour les départements, comment ça se répartit?
Oui, on peut le dire, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui d'ailleurs a été créée pour récupérer cet argent du lundi de Pentecôte supprimé initialement, elle peut donner le bilan. Le problème majeur autour de ces crédits, c'est que nous l'avons dénoncé depuis quasiment 2005, c'est qu'une partie de ces crédits n'est pas allée à l'aide aux personnes âgées. C'est qu'en plus, un, c'est insuffisant, ça vient d'être dit, deux, une partie de ces crédits sont allés permettre à l'État, au pouvoir public, de faire des économies.
Donc de combler le trou de la sécu, c'est ça ?
Ou de détourner une partie des moyens. Oui, notamment combler une partie du déficit de la sécu, donner de l'argent au département. Toutes choses certainement utiles par ailleurs, mais qui ont été ponctionnées sur ce qui aurait dû être l'aide aux personnes âgées. C'est aussi une des explications qui fait que notre pays est tellement en retard. C'est que quand, en 2003-2004, on met en place un petit financement nouveau, on en reprend une partie. Donc on voit bien qu'il y a besoin dans ce pays de mettre en place une vraie politique de l'aide aux personnes âgées. Et puis, il faut le dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a un tel retard? C'est que notre pays est profondément agiste. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui pratique la discrimination par l'âge, qui la pratique tellement que ça ne se voit même pas, tellement tout le monde est agiste. Quand on n'a pas vu un ami depuis 5 ans, il est de bon ton de lui dire qu'il n'a pas vieilli. Mais ça imprègne aussi les politiques publiques. C'est que dans un pays où tout ce qui concerne les personnes très âgées,
ça veut dire qu'on abandonne nos vieux, vous dites ça? Ça veut dire qu'on abandonne nos vieux? Enfin, ou en tout cas, qu'on s'en occupe pas aussi bien qu'on devrait?
En tout cas, à chaque fois qu'il y a des priorités à faire, quels que soient les gouvernements, on va pas remonter au siècle dernier, mais depuis le début des années 2000, c'est jamais les personnes âgées qui sont prioritaires. D'où ce retard? Il y a toujours plein de choses à faire. Et c'est vrai que quand on est président de la République ou Premier ministre, on a plein de sujets sur lesquels arbitrer. On voit bien que l'aide aux personnes âgées a toujours été mal servie et que du coup, ça explique ce retard dont vous avez donné un certain nombre des éléments.
Mais alors Luc Broussy, si on dit voilà ce qui pourrait être utile, voilà comment ça marcherait mieux, vous diriez quoi par exemple?
On entendait une auditrice tout à l'heure qui disait j'espère que les revenus du capital vont être mobilisés. D'abord, ils le sont. Il faut le dire, le 0,3% est payé par les salariés, les retraités et les revenus du capital. Mais au-delà de ça, l'agisme que vient de dénoncer ou que vient de pointer du doigt Pascal Chambert, mais il nous concerne tous. C'est pas un président de la République, un Premier ministre qui sont agistes. C'est tous les Français. On a fait des choix collectifs depuis 10, 15, 20 ans qu'on n'a pas souhaité nous-mêmes payer plus d'impôts pour la question de la personne âgée. Donc, à un moment donné, pour être très clair, entre maintenant la situation de court terme qui est déjà tendue et puis la situation de 2030 qui va être là explosive. Parce que c'est à ce moment-là.
Le grand papy-boom, c'est 2030. Ça commence en 2030.
Oui, parce que toutes les personnes qui sont nées au début du baby-boom, c'est-à-dire à partir de 1945, auront 85 ans en 2030. Et donc, ça va générer des besoins considérables. Là, bien au-delà des problèmes qu'on se pose aujourd'hui. Donc, il faut être serein, il faut regarder comment on finance à court terme pour tout de suite soulager les personnels à domicile comme en EHPAD qui souffrent aujourd'hui, c'est vrai. Il faut regarder à moyen terme. C'est le moyen terme du quinquennat, ce que le personnel politique peut donner comme solution visible d'ici là. Et puis, il faut vraiment maintenant regarder comment, en 2030, nous financerons, parce que là, ce sera vraiment l'Alpe d'Huez de la démographie.
Mais quand vous dites qu'on est agiste, ça veut dire ça, en fait? Ça veut dire qu'on n'a pas envie de voir à quoi vont ressembler les chiffres entre 2030 et 2050, parce que ça ne fera qu'augmenter, évidemment.
Mais parce qu'il y a aussi peut-être une génération qui massivement va vieillir à ce moment-là, qui peut-être est la génération, ce qu'on appelle les baby-boomers, qui a profité de la croissance, qui a eu de faibles périodes de chômage dans les années 70-80, et qui va se retrouver, là, dans la situation d'être en perte d'autonomie, éventuellement, dans quelques années. Ce qui pose aussi les problèmes de solidarité entre générations. On parle aujourd'hui de la situation faite aux personnes âgées. Mais aujourd'hui, le jeune de 20 ans qui trouve pas de boulot, pas de formation et pas de logement, il n'est pas non plus particulièrement bien traité. Donc voilà, il faudra regarder aussi comment...
Peut financer d'ailleurs ce jeune-là qui n'a pas encore de travail, qui a du mal, etc. Ni ne peut financer aussi la dépendance, ou en tout cas difficilement.
Mais il faut dire aussi, alors je veux pas être à rebours de ce que vient de dire Pascal Chauvert, mais enfin, il y a aussi une concentration aujourd'hui de l'épargne et du capital chez les seniors. Mmh. Et donc ça, il faudra mettre le sujet sur la table. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce ne sont pas que les actifs qui vont financer la perte d'autonomie des seniors. Il va falloir mettre tout sur la table. Et il y a aujourd'hui un certain nombre de personnes âgées qui ont des faibles ressources, mais des patrimoines importants. 75% des seniors sont propriétaires de leur logement.
Alors vous allez vous faire détester par la moitié des gens qui nous écoutent et qui vont vous répondre notamment que les retraités payent déjà sur la CSG et que c'est pas le moment de les plomber.
Et que c'est le fruit de toute une carrière, et ça, il n'y a aucun problème. Mais il va falloir mettre et les revenus salariaux et les revenus du capital. Et dans les revenus du capital, il y a aussi les revenus du capital immobilier. Et il faudra mettre tout sur la table pour que tout ça soit juste.
Bonsoir Jean-Louis.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Quel débat intéressant. J'ai été président d'une fédération nationale de services à domicile, donc j'ai vu pas mal de choses. D'abord, je voudrais dire que dans le financement, il faut quand même pas oublier que nos impôts locaux en payent une partie. Au début de l'allocation personnalisée à l'autonomie, l'État en payait 50%, les départements 50%. Aujourd'hui, l'État n'en paye plus que 30%. Donc les impôts locaux des départements ont augmenté pour financer l'APA. Ensuite, quand vous avez des services à domicile qui sont gérés par des CCAS, en général, il coûte plus cher que des services à domicile associatifs, et donc les impôts locaux des villes en financent une partie. Bien. Après, je voudrais vous dire qu'il me semble qu'il y a quand même de l'ordre à mettre dans les services à domicile aux personnes âgées, parce que dans un département de l'Ouest, là où j'ai eu l'occasion d'aller, il y a 600 000 habitants, il y a 84 structures qui sont autorisés. Donc quand on parle d'économie d'échelle et de mutualisation de moyens, on pourrait peut-être un petit peu regarder de ce côté-là, et avec des départements qui tarifient d'une manière exemplaire, puisque les tarifs selon les départements vont de 16 à 28 euros pour une heure d'aide à domicile. Donc on pourrait dire des tas de choses sur tous ces sujets-là. Sur l'âge, les baby-boomers, j'en suis, je pense qu'à 85 ans, on sera en meilleure forme que ceux qui ont 85 ans aujourd'hui, parce que d'abord, on aura eu la retraite à 60 ans, on aura connu les 39 heures, voire même en fin de carrière, les 35 heures. Donc, effectivement. Et comme Luc Broussy, je suis d'accord, on a un peu de moyens. Et donc, sur le financement, mon opinion personnelle, c'est pourquoi toujours taxer l'activité économique, surtout sur un sujet où, effectivement, il faut convaincre les gens que s'ils ont épargné toute leur vie, c'est pour bien vivre leur fin de vie, et non pas laisser des fortunes relatives à leurs héritiers qui n'en auront pas besoin. Vous pensez que notre génération va hériter à 65, 70 ans ? À quoi ça nous sert ? Donc là, moi je suis, comme le Conseil économique et social on l'a proposé en 2011, pour un impôt, adapté pour les petites successions, mais un impôt sur les successions et les donations intrafamiliales, ça me paraît beaucoup plus efficace que de, encore une fois, taxer l'activité économique. Et une petite remarque.
Allez-y, Jean-Louis, rapidement.
Sur l'inégalité, si vous voulez, devant la dépendance et la mort, réfléchissons quand même. Vous avez vos parents, ils sont âgés, ils décèdent subitement. Il n'y a aucun frais de dépendance. Vous avez des parents qui passent un an, deux ans, cinq ans avec une aide à domicile coûteuse, puis après en EHPAD, et il reste rien de l'héritage, et quelquefois même les enfants payent. Donc effectivement, on est là devant une situation inégalitaire qu'il faut aussi regarder et traiter. Merci.
Merci à vous, Jean-Louis, Pascal Chanvert, sur notamment les remarques de Jean-Louis, et notamment en termes de financement, effectivement, pourquoi faudrait-il que ce soit l'activité économique qui soit toujours celle qui paye ? En gros, on a posé la question tout à l'heure à Luc Broussy, le meilleur système selon vous, un financement qui serait optimum et égalitaire, c'est quoi ?
Jean-Louis, il dit deux choses importantes. Il met l'accent sur quelque chose qui n'est souvent pas suffisamment mis en évidence. C'est que il y a une inégalité fondamentale en fonction de la pathologie que vont avoir les personnes à partir de 80, 85 ou 90 ans.
Alors effectivement, on vivra mieux, le dit Jean-Louis, mais enfin pas tout le monde.
Vous avez une maladie, vous avez des gros problèmes cardiaques, vous avez un cancer, vous allez aller à l'hôpital en clinique, vous allez mobiliser de l'hospitalisation à domicile, vous n'allez rien payer et vous léguerez tout votre patrimoine, qu'il soit petit ou grand, à vos enfants. Vous allez avoir une maladie d'Alzheimer, vous allez être beaucoup aidé à domicile, vous allez éventuellement aller en établissement, vous allez être surtaxé, vous allez payer très cher en établissement et à domicile de plus en plus, et donc vous léguerez moins à vos enfants. Il y a une inégalité parce qu'au fond, on fait payer les gens en fonction de l'aléa de la maladie ou de la santé. Ça, c'est totalement injuste. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en place
une participation. La maladie est injuste, ce qui rend le système injuste.
Oui, Non, mais Luc Broussy l'évoquait tout à l'heure. Il n'y a pas un jour pour les gens qui ont des problèmes de cancer, un jour pour les gens qui ont des problèmes de phlébite. Nous payons tous pour l'assurance maladie, pour permettre que les personnes qui sont malades, et ça a été nous à certains moments de nos vies, puissent être couverts et avoir accès au système sanitaire français. Là, on est dans la situation où on fait pour l'essentiel payer les gens concernés. Ayez en tête que dans un établissement pour personnes âgées, c'est pour ça que ça coûte autant, c'est que le coût de l'établissement, il est payé à 60% par la personne âgée ou sa famille. Et au fond, moins de la moitié par les pouvoirs publics. Alors après, deuxième question qu'évoque Jean-Louis, c'est comment financer ? Une des voies, c'est effectivement celle qui a été proposée par le Conseil économique et social à l'unanimité, c'est-à-dire l'ensemble de la société civile, les syndicats de salariés, les employeurs, les grandes entreprises, les petites, les indépendants, les agriculteurs, les commerçants, tout le monde. Et à l'unanimité, la proposition, c'est effectivement de taxer les successions. Ça peut être une voie, parce que là, on est probablement proche d'un financement qui serait largement accepté.
Vous avez évoqué ce que coûtent notamment les EHPAD aux personnes âgées et donc le reste à payer pour les familles. Cette question de Véronique Julia, tiens, qui est spécialiste santé de France Inter et qui a passé une tête il y a un instant et qui dit dans les Landes, par exemple, il n'y a pas d'EHPAD privé. Ça a été un choix, vous le savez sûrement mieux que moi, d'Henri Emmanuelli à l'époque. C'était un vrai choix politique et le prix était de 1900 euros pour tous maximum. Ce sont les EHPAD privés qui coûtent très cher puisqu'il faut rémunérer les actionnaires. Est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est pas dans cette direction-là qu'on peut éventuellement essayer de travailler?
Vous savez, moi je veux bien qu'on discute
Pascal
de la situation...
Pascal Chambert, si j'ai vu que vous réagissiez, vous aurez le droit tout à l'heure de répondre.
Oui, on peut parler de la situation des établissements privés. Les établissements privés commerciaux, c'est 20% du secteur. 80% des établissements pour personnes âgées, ils sont publics ou associatifs. Donc, l'histoire de la rémunération des actionnaires, ça marche pas dans le public et l'associatif. C'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est quand on va aujourd'hui dans un hôpital ou dans une clinique, la plupart des Français ne payent rien, voire une toute petite partie. Quand on va dans un établissement pour personnes âgées, on paye 60% du coût. C'est ça qui fait que c'est si cher pour les personnes concernées, l'établissement pour personnes âgées, par rapport à l'hôpital ou à la clinique.
Luc Broussy.
Écoutez, je sais pas, une telle forme de déni de... la nécessité de prendre financièrement en charge la perte d'autonomie, que on accuse un petit peu tout le monde. Et voyez-vous, y compris d'ailleurs un certain nombre de journalistes, aussi brillants soient-ils, qu'ont-ils pris comme cible depuis 4-5 mois dans ce débat? Les maisons de retraite. C'est là où on n'y travaille pas bien, c'est là où on maltraite les personnes âgées. Même le comité d'éthique vient de sortir un rapport pour expliquer que c'était...
Ce sont aussi les personnels des EHPAD, Luc Broussy, qui ont beaucoup expliqué leurs conditions de travail et qui sont des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles quand même.
Oui, mais pas depuis avant-hier.
Et à domicile aussi. Non, on est d'accord. Et à domicile aussi.
Pas depuis avant-hier.
Alors, certainement pas depuis avant-hier, mais deux fois sorti dans la rue cette année, ça dit quand même des choses.
Absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle.
Absolument.
C'est bien parce qu'il y a eu que les centrales syndicales se sont emparées du sujet, que les personnels ont dit leur ras-le-bol. Pas leur ras-le-bol de leur métier.
Oui.
Leur ras-le-bol d'un effet de ciseau qui fait que depuis 10-15 ans, et avec Pascal Chambert, on l'a pu le vivre ensemble, l'état de santé des personnes hébergées en EHPAD s'est profondément dégradé. On va en maison de retraite quand on peut plus faire autrement. Et par rapport
les moyens plus compliqué.
Ont évidemment, les moyens ont augmenté, mais ils n'ont pas augmenté aussi vite l'état des personnes en EHPAD le nécessiterait. Et c'est ça qui a créé aussi ce malaise. Mais moi, je pense franchement que la société se gagnerait à être et solidaire et bienveillante vis-à-vis des maisons de retraite, vis-à-vis des services à domicile où tout ne marche pas bien. Mais enfin, c'est quand même eux qui sont en première ligne au quotidien. Donc, prenons chacun notre effort, notre part de l'effort. Les personnels, les gestionnaires de maisons de retraite le font. Les Français vont devoir le faire aussi à un moment donné.
Vous avez l'impression, vous, qu'il y a de l'EHPAD bashing, en gros.
Absolument.
Et qu'on considère que, gros, parce qu'il y en a un où ça se passe mal, on considère que ça se passe mal partout.
Non, moi, mais ça, c'est un des désaccords que j'ai d'ailleurs avec Pascal Chambert, on peut en débattre. Je suis contre cette espèce de concept de maltraitance institutionnelle. Comme si, par essence, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens, on maltraiterait les personnes âgées. C'est une idée qui va mettre le doute dans l'ensemble des têtes de millions de familles qui, elles, ont besoin d'avoir ce recours d'elles.
Justement, je voudrais qu'on écoute Pauline, puisque Pauline, vous êtes infirmière dans un EHPAD, vous allez pouvoir nous raconter. Bonsoir, soyez la bienvenue, Pauline.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel.
Allez-y.
Alors, moi, j'avais très envie d'intervenir par rapport à cette fameuse journée de solidarité. Mm-hmm. Donc, je participe à une grève, comme beaucoup de mes collègues. Mm-hmm. Mais de moins en moins, parce que maintenant, ce que j'entends de plus en plus quand même dans mes équipes, c'est oui, mais on va arrêter maintenant de trop se plaindre, il faut arrêter de dire vraiment comment ça se passe, parce que voilà ce qui va nous arriver, c'est une journée en plus de solidarité, et une journée en plus non payée, voilà, jour férié. Et donc, je trouve ça quand même assez dommage que ce soit la seule réponse de l'État que de nous demander ça, parce que finalement, à travers tout ça, on parle pas vraiment de ce qui se passe dans les EHPAD, et... On parle plus de savoir comment on va financer tout ça, mais il ne se passe pas que des mauvaises choses dans les EHPAD quand même. Hein. Il y a aussi de très belles choses.
Et on a eu l'occasion d'en parler et d'en faire tout un téléphone sonne. D'ailleurs, vous avez l'impression, vous, Pauline, tant que je vous tiens, comme Luc Broussy, qu'il y a une sorte d'EHPAD bashing en ce moment, qu'on fait un peu de généralité parce qu'il y a certains endroits où ça se passe mal.
Je trouve que le tableau est un peu noirci et c'est bien pour ça que, c'est ce que je disais, ce serait bien qu'on en parle en disant aussi que voilà, il y a quand même de très belles choses, mais que ça tient aussi essentiellement par le dévouement du personnel quand même, hein, qui accepte quand même beaucoup de choses et il y a quand même... un manque d'effectifs, hein, voilà ce qu'on dit, hein, on continue à le dire dans la rue, mais on est de moins en moins nombreux parce que voilà la seule réponse de l'État, quoi, encore une fois, hein, et c'est quand même assez triste en fait.
Merci beaucoup pour cette intervention, cette remarque, Pauline. Luc Broussy, je vous vois lever le doigt, mais Pascal Chanvert aussi, parce que vous, les EHPAD, évidemment, ça vous concerne. Allez-y, monsieur Broussy.
Non, juste pour dire que pour l'instant, la réponse de l'État, il n'y a pas de réponse de l'État.
Non.
Il y a une suggestion, voilà. Le débat est public et c'est votre émission y participe. Le débat est ouvert.
Il y a une suggestion, mais qui a permis de dire, c'est pas la bonne. De manière assez générale.
Voilà,
en fait.
Absolument. Hein,
Pascal Chanvert.
Oui, sur ce que vient de dire Pauline, combien les professionnels de l'aide aux personnes âgées en établissement comme à domicile, c'est parce qu'ils font un travail admirable que le système réussit à tenir en dépit des bouts de ficelle avec lesquels on le fait tenir. Et quand on a, avec l'ensemble des organisations syndicales, lancé ces mouvements en janvier et en mars, ce qu'on voulait, c'est que les professionnels assument de dire que ce qu'ils font ne correspond pas à ce qu'on leur a appris à l'école et à ce qu'ils devraient faire. Et ça a été un grand effort pour l'ensemble des salariés, les directeurs, les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, l'ensemble des salariés. Ça a été difficile parce que c'est compliqué de dire on voudrait faire mieux, mais on n'arrive pas à faire complètement ce qu'il faudrait qu'on fasse. Et ça a pour conséquence qu'on ne traite pas suffisamment bien les personnes âgées en établissement à domicile. Après, sur l'affaire de l'EHPAD bashing, il faut bien voir que dans une société, les Français, ils aiment leurs vieux. Mm-hmm. Mais la société n'aime pas les vieux. Dans une société qui n'aime pas les vieux...
C'est comme les enfants. On aime nos enfants, mais ceux qui font du bruit dans le train, on a juste
envie mais on n'est pas dans une situation de discrimination avec les enfants comme on l'est avec les personnes âgées. Au contraire, les enfants sont mythifiés, même si, comme ça a été dit tout à l'heure, on ne sait pas forcément leur donner un job quand ils ont fini leurs études. C'est pas pour autant qu'on les traite bien, mais en tout cas, ils sont largement idéalisés alors que les personnes âgées sont constamment dévalorisées. C'est ça l'agisme. Mais donc, sur cette question, l'établissement, c'est un révélateur de l'existence de personnes très âgées dans notre pays. Parce que les personnes âgées à domicile, les 750 000 personnes âgées à domicile qui ont besoin d'être aidées, au fond, personne ne les voit. Ce qu'on voit, c'est les 750 000 qui sont en établissement. Alors, on nous dit toujours, en établissement, on ne sait pas ce qui se passe. Mais non, au contraire, en établissement, tout le monde voit ce qui se passe. C'est à domicile qu'on ne voit pas. Et c'est les raisons pour lesquelles j'insistais avec autant de force pour dire tout à l'heure que le mouvement... Il est bien autant dans les établissements qu'à domicile. C'est pas le domicile ou l'établissement qui va pas bien. C'est l'ensemble de notre système d'aide aux personnes âgées qui est en retard et insuffisant.
Bonsoir Marie-Noël. Marie-Noël, est-ce que vous êtes là ?
Oui.
On vous écoute, allez-y Marie-Noël.
Je voulais simplement dire que je m'interroge quand même sur là où va l'argent dépensé par les gens pour des établissements publics ou privés qui sont quand même extrêmement chers. Et que j'avoue que je m'interroge, parce que à la fois ces gens dépensent beaucoup, et à la fois le personnel est submergé, il y a quand même de la maltraitance, je suis désolée par rapport au monsieur qui a été dit, mais moi quand je vois, je visite pas mal de personnes âgées, et quand je vois par exemple à quel point on utilise les protections au lieu d'aider les personnes âgées à aller aux toilettes, moi j'appelle ça un acte de maltraitance quand on peut se faire autrement. Voilà, donc où va l'argent ? Et je suis contre une deuxième journée.
Marie-Noël, plutôt l'impôt.
On a bien entendu vos arguments, Marie-Noël. Luc Broussy, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, tout ça est un peu compliqué, mais ce prix, la question revient tout le temps, c'est moins simple que ce qu'on décrit là, évidemment, mais la question revient tout le temps, comment ça se fait que c'est si cher et qu'en plus, il faut donner encore de l'argent pour que ce soit moins cher?
Alors, moi, je comprendrai cet argument lorsque vous aurez des auditeurs qui appelleront en vous disant comment c'est possible qu'un Ibis soit aussi cher à 60 euros.
N'engueulez pas les auditeurs, monsieur voilà. Broussy.
Non, mais je les engueule pas, je voudrais faire comprendre aussi ce que nous, on vit avec ces interrogations générales. En moyenne, un établissement public, on est à 60, 70, 80 euros par jour. Pour cela, il y a un petit déjeuner, il y a un déjeuner, il y a un goûter, il y a un dîner. Il y a de l'animation, il y a des exercices de mémoire, etc. etc. Bon. Donc, c'est objectivement cher pour les familles qui ont à payer. Mais ce n'est pas objectivement cher. Voilà. Ne confondons pas deux choses. Moi, si je dis à votre auditrice combien représente le coût d'une journée d'hospitalisation, elle ne vous dira pas que c'est trop cher puisqu'elle ne le paye pas. Elle paye le forfait hospitalier. Donc, la question, c'est pas de savoir si c'est cher ou pas. La question, c'est comment c'est solvabilisé par la solidarité nationale. Mais il suffit aussi, parce que dans ces 60, 70, 80 euros, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il n'y a pas suffisamment de personnel ou il y a des personnels, insuffisamment payés. Ce serait le cas des seuls établissements commerciaux. On pourrait accuser le grand capital, la bourse, etc. Mais 70, 80 euros, c'est le tarif des établissements publics et associatifs.
Antoine, ça fait presque 23 minutes que vous nous attendez, pardon, et on vous écoute.
Oh, écoutez, bonsoir à tous, vous
bonsoir.
M'entendez
Mais on vous entend très bien, allez-y.
Écoutez, ça m'a simplement obligé à être encore plus attentif que d'habitude.
Formidable.
Mission toujours remarquable. Bref, un témoignage, une idée et une remarque dont vous me pardonnerez qu'elle n'est pas nécessairement en rapport avec le débat de ce soir. Alors, un témoignage. Je dirige une petite société qui travaille dans la finance, bref, et depuis la loi Raffarin et depuis maintenant 4 ans, nous ne consacrons pas une journée, mais deux journées à cette solidarité nationale, sans se préoccuper de savoir ce qui coûte, ce à qui ça va, comment ça fonctionne, bref. Et ça a été à l'initiative de mes équipiers, pas à la mienne, de telle sorte que chaque année, nous provisionnons l'équivalent d'une journée quotidienne de masse salariale et de charges sociales. Et comme nous travaillons dans la finance, nous la plaçons de telle sorte qu'à la fin de l'exercice comptable, j'espère que je jargonne pas trop.
Non, c'est bien.
Comme c'est notre métier, elle a fait des petits et nous reversons beaucoup plus que ce que nous avons provisionné au départ.
Bien. Vous versez à qui? Vous versez à qui?
Ben, nous versons aux gens qui nous le demandent, c'est-à-dire à l'État, pour dire ça de manière générale, tel que
d'accord.
Les prélèvements vis-à-vis de l'URSSAF, vis-à-vis de tout ça, nous versons aux différentes caisses qui nous le demandent bien.
D'accord, donc tout le monde verse 0,3% de la masse salariale et vous versez deux fois plus en gros. D'accord.
Deux fois. Okay. Encore une fois, à l'initiative des employés qui ont tous cette conscience de devoir aider les personnes dépendantes, qu'ils soient directement ou indirectement liés à eux. Et de manière corollaire, nous avons aussi mis en place un système de mutualisation des RTT qui permettent aux uns et aux autres, lorsque le cas se présente, que ce soit un proche, un conjoint, un enfant, un adulte dépendant, de bénéficier du temps nécessaire pour s'occuper de lui, au-delà, bien au-delà même parfois, de ce que la loi permet en matière de congés payés et de congés sans solde.
Bref. D'accord.
L'idée étant que, ça n'a pas été, je crois, évoqué par vos interlocuteurs, mais le gouvernement tente, sur certains sujets, de remettre la décision à l'intérieur de l'entreprise en dehors de ce qu'on appelle communément les corps constitués. Et sur ce sujet-là, je pense que les entreprises, d'une manière générale, ont beaucoup plus d'idées, de bonnes idées, que soit l'État lui-même, soit ces différentes instances représentantes du monde professionnel ou syndical. Bref, sans qu'il y ait de ma part aucune jugement de valeur vis-à-vis de ces gens-là. Et si vous me permettez une dernière remarque, qui encore une fois n'a rien
Antoine,
à voir
si
avec... J'espère que vous ne m'en voudrez pas de faire... rassurez-vous, je ne vais pas faire un détour dans mon antenne.
Allez-y vite.
L'affaire Weinstein.
Ouais. En effet, on s'éloigne, mais je vous en prie.
Oui, on s'éloigne, mais c'est juste une question de prononciation qui me fait dresser les quelques cheveux que j'ai sur la tête. Que ce soit Eva Bétan, que ce soit le génial Augustin Trappenard, que ce soit la divine Nora Adler.
On lui retransmettra, vous voulez qu'on l'appelle Weinstein.
Fabienne Saint-Esse, pourquoi prononcer Weinstein à l'allemande alors qu'il s'agit d'un nom anglo-saxon et qu'on prononce au mieux Weinstein pour les vrais anglo-saxons ou à la française Weinstein? Mais je vous en conjure, pas Weinstein, ça me fait encore une fois dresser les quelques cheveux qui me restent
sur la tête. Très bien, on a bien compris le message. Antoine, on essaiera de se mettre d'accord les uns les autres et de prononcer les choses comme il faut. Merci beaucoup de cet appel, en tout cas. Moi, il y a une chose qui m'étonne et qui m'intéresse dans l'appel d'Antoine, Luc Broussy. Il y a un petit côté faisons-le à l'américaine, c'est-à-dire chacun donne en fonction de ce qu'il veut et de ce qu'il peut. Et pourquoi pas, magnifique dans l'entreprise d'Antoine. Mais en même temps, est-ce que c'est comme ça que ça doit fonctionner, en fait ?
Certainement pas. Enfin, je pas tout compris techniquement à la proposition d'Antoine. Si ça consiste à payer deux fois les URSSAF, au moins les URSSAF seront contentes. Mais par contre, là, il a soulevé aussi une idée, c'est que à l'intérieur même des négociations d'entreprise, des négociations sociales, dans le champ social où on négocie toute une série d'accords pour les salariés, le congé pour parents dépendants, c'est quelque chose qui va devenir aussi prégnant. Il y a beaucoup de quinquagénaires, de sexagénaires, qui ont besoin, à un moment donné, de prendre des congés pour s'occuper d'un parent dépendant. Ça apparaît naturel quand c'est un enfant, un peu moins quand c'est un parent. Il faudrait que ça fasse partie des sujets qui soient sur la table des négociations sociales. Et ça passe au-delà de la loi.
Puisqu'il nous reste un peu plus d'une minute, je voudrais pas qu'on rate la question de Jean-Marie. Bonsoir, Jean-Marie.
Oui, bonsoir. Bien, donc j'ai très court et très bref.
Allez-y.
Donc, nous avons pris, mon père et moi, une assurance dépendance, parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc là, vous parlez des EHPAD, vous parlez de l'État, etc., du volet complémentaire, peu importe. On a payé des assurances. Et le jour où mon père avait des problèmes de DMLA, de problèmes cardiaques, etc., on a fait venir un médecin donc de l'assurance, de notre assurance. Il avait dit donc, ok, vous pouvez bénéficier d'une femme de ménage ou autre chose. Et l'assureur nous a dit, non, vous n'êtes pas grabataire, donc vous n'avez pas besoin d'assurance. Donc on a annulé nos assurances et on a perdu, peu importe le prix qu'on a payé, et on a perdu les prix. Donc voilà, c'était ma question que je voulais poser, parce qu'on parle des salariés ou on parle en même temps des privés. On peut payer une assurance, mais il faut pas prendre une assurance, parce qu'on n'est pas en tout cas aidé, même au bout de 6 ou 10 ou 15 ans.
Merci beaucoup, Jean-Marie. Quelque chose que j'ignorais totalement, Pascal Chanvert.
Voilà bien pourquoi il faut préférer la solidarité nationale à des systèmes d'assurance privée. Même s'il peut y avoir des assurances privées de type complémentaire, il y a des gens qui sont particulièrement attachés, il faut que le socle de ce qu'annoncera le président de la République, ce soit la solidarité nationale.
Parce que ça veut dire que l'assurance dépendance obligatoire, par exemple, alors c'est un peu autre chose, il y a des gens qui comparent ça à,
oui, mais
à
si
la
c'est
même
une assurance du sens
voiture ou je ne sais quoi, quelque chose
qui ressemblerait
à ça. Si c'est
une assurance du sens de l'assurance maladie, c'est-à-dire un système qui est géré par des collectivités publiques, on n'a pas le risque que vient de décrire l'auditeur.
Ça veut dire que Jean-Marie a perdu son argent quand même.
Ben oui, là, comme beaucoup de Français.
Un système assurantiel ne pourra fonctionner que lorsqu'il sera clairement encadré par la loi. D'ailleurs, on est en train de fêter en ce moment mai 68. Mm-hmm. Il faut dire, peut-être pour conclure ce débat, que dans 10-15 ans, les résidents des EHPAD, c'est ceux qui auront eu 23 ans en 1968. Et donc, là aussi, ce sera une nouvelle donne. Une nouvelle donne, c'est-à-dire que on aura probablement là aussi des personnes âgées, des seniors, qui seront beaucoup plus conscients de leurs droits qu'avant.
Et on y passera tous, évidemment, dans ces endroits-là aussi, à la grande vieillesse aussi, et peut-être dans ces établissements également. Merci beaucoup à tous de votre passage dans le téléphone. Je voudrais terminer avec Marie-Sophie Tellier qui nous a envoyé un mail, et j'en profite, je vais le lire pour vous. Pour prolonger le débat de ce soir, je vous invite à regarder le film que j'ai réalisé, dit-elle, sur ma grand-mère, L'alarme de Louisette, diffusé mardi 22, donc c'est demain à 20h30 sur LCP, Assemblée Nationale. Voilà, puisqu'elle nous l'a écrit, eh bien on va regarder ça avec grand plaisir. Merci à tous.
Très bon film.
Et voilà, et portez-vous bien.